Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Tu veux du court, du long, du classique, du docu, de la réalité virtuelle et même des films de fesses? Au rendez-vous du cinéma québécois, on a du bon stock. 340 films, 110 premières, 30 événements gratuits, des leçons de cinéma, du Louis-José Houd, de l'impro, du Andorval, un show la nuit, des DJ, du ding et dong et des activités pour toute la famille. C'est LE moment où on célèbre nos films québécois et où on rencontre leurs artisans. Du 22 février au 4 mars, c'est LE rendez-vous du cinéma québécois. Puis cette année, il y a vraiment du bon stock. Visite lequebeccinema.ca.
Choc.ca t'invite à découvrir le cabaret festif de la relève. Volet concours du festif de Baie-Saint-Paul. Un véritable tremplin pour la relève dans lequel 12 finalistes se disputent plus de 15 000 $ en bourse, en prix et en visibilité partout au Québec. Du 6 au 10 mars, rendez-vous au www.lefestif.ca/cabaret pour visionner les performances des 3 finalistes web et voter pour celui que tu voudrais voir en finale. Les cabarets festifs et Choc.ca font la paire pour la relève.
What a dang, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de Choc.
Vous êtes mécontent de votre condition d'ouvrier, j'imagine.
Ah oui, oui, oui. C'est que les cadences sont déjà trop fortes. Les salaires sont pas assez élevés pour ce qu'on travaille.
On est des militants syndicaux, je veux dire. C'est rien que ça qu'on a à faire. Ça veut dire que c'est une chose qu'on doit faire, je veux dire.
Si ça n'avait pas été de l'appui des femmes, des grévistes et des maires, et de l'appui de la population, qu'on aurait perdu cette grève-là.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous écoutez Action en direct sur les ondes de Choc. Action en direct, c'est une émission qui traite à chaque deux semaines d'actualités syndicales, de conditions de travail et de culture et d'histoire militante. Notre objectif, c'est de montrer le point de vue des travailleurs et travailleuses et discuter d'enjeux qui les concernent directement à travers des chroniques et des entrevues. On croit pas à la neutralité. Ainsi, on prend le parti des précaires, des sans-emploi, de celles et ceux qui se font couper et qui sont les premières cibles de l'austérité. On souhaite également montrer comment ces gens s'organisent pour plus de justice sociale. Notre émission vise donc aussi à diffuser les initiatives de syndicats et de groupes politiques et à l'occasion de présenter des capsules sur leur histoire. Donc aujourd'hui, pour l'émission du 25 février, notre émission va être consacrée à la révolution en cours au Rojava, la partie syrienne du Kurdistan. Pour nous en parler, on va d'abord entendre une entrevue réalisée avec Asalan, une membre de la communauté de Montréal, qui est très impliquée dans le combat du peuple kurde. Ensuite, on a la chance d'avoir avec nous en studio un camarade qui revient du Rojava, qui va nous livrer son témoignage, et également il y a Hussein, qui est avocat et membre de la Fondation kurde du Québec. Tout au long de l'émission, on va écouter principalement de la musique kurde. En fin d'émission, Eric, tu vas aussi nous péter une coche à propos de l'État islamique cette fois.
Que oui, Daesh ou l'État islamique ou l'ISIS, là, appelez ça comme vous voulez.
Et comme d'habitude, évidemment, il va y avoir l'agenda militant des prochaines semaines qui va être présenté par Pierre-Luc. On commence tout de suite avec Émilie. Tu voulais aujourd'hui nous parler d'un camarade. D'une camarade, en fait.
En cette émission sur le Rojava et la lutte des Kurdes en Syrie, on voulait souligner la mort d'un camarade qui est membre des IWW, qui est décédé le 24 novembre 2016. Michael Israel, qui est connu sous son nom de combat Robin Aguirre, il se rendait avec son unité à Arima, dans un village à quelques kilomètres de la ville de Al-Bab, contrôlée par l'État islamique dans le nord de Raqqa. Il était en train de prendre un village avec les YPG. La moitié était contrôlée par Daesh et la moitié contrôlée par les troupes. Et c'est alors que la Turquie a fait une attaque aérienne, le tuant avec son camarade Anton Levchek, ou son nom de combat, Shehid Zana Jiwan, qui était un Allemand, et 10 autres personnes qui luttaient avec le YPG. La Turquie considère le YPG comme une organisation terroriste et n'hésite pas à attaquer les Kurdes. Et l'attaque les ciblait directement. C'était la deuxième fois que Shehid Robin se rendait en Syrie pour combattre avec les Kurdes. C'était un militant antifasciste, c'était un anarchiste. Il était membre fondateur de la branche des EWW de Sacramento en Californie. De ses propres mots, il dit qu'il allait combattre pour la révolution. Il considérait la lutte au Rojava comme le mouvement révolutionnaire le plus dynamique de notre époque. Il est important de parler de lui. On en a pas beaucoup parlé à Montréal, là, dans notre branche. Mais il faut en parler. C'est pour ça aussi qu'on fait une émission sur le Rojava aujourd'hui pour faire avancer la lutte contre les fascistes de l'État islamique et du régime fasciste d'Erdogan. Puis comme on dit dans les IWW, « An injury to one is an injury to all ».
No, no, no.
Vous écoutez toujours Action Directe, votre émission d'actualité syndicale et de culture militante. Alors, Eric, qu'est-ce qu'on vient d'entendre comme chanson?
On vient d'entendre une chanson de Brigada Flores Magón, qui est un groupe parisien, en fait, un vieux groupe un peu légendaire dans la scène antifasciste. Puis, en fait, c'est une chanson que je sais que Chia, notre camarade qui revient du Rojava, c'est une chanson qui a été une certaine importance là-bas ou qui a pris un autre sens.
Ouais, ben j'ai perdu 4 de mes amis là-bas, Shade Robin, Shade Zana, Shade Barwadan et Shade Aguirre, un Canadien, lui. Sont morts en combattant, les armes à la main, donc je trouvais que c'était une tonne appropriée, puis ça signifie beaucoup plus maintenant, disons.
Donc, maintenant, on va écouter une entrevue que Tristan a réalisée hier avec Asliane, qui est une militante kurde qui est impliquée ici à Montréal. On vous passe ça tout de suite.
Je m'appelle Asliane Öztürk. Je suis kurde d'origine. De la Turquie, en fait. Et puis, je suis une personne impliquée ici dans ma communauté kurde, ici à Montréal. Je suis la coprésidente.
Tu disais que tu étais kurde, mais que tu étais originaire de Turquie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la particularité du peuple kurde qui est allé sur plusieurs pays?
Oui, ben dans le fond, notre pays, c'est l'extrait Kurdistan. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été divisé en 4 régions. Ça a été décidé, en fait, par l'Occident. Donc, on a été divisé entre l'Iran, la Syrie, l'Irak et la Turquie. La plus grosse partie est en Turquie. Et puis, depuis, bon, avec l'idéologie de l'État-nation, on a été vraiment opprimés en tout temps. Notre langue, notre identité a été niée. Donc, en tant que Kurde, on n'existait pas. On était des Turcs de la montagne. En conséquence, beaucoup de souffrances ont eu lieu. Et puis, beaucoup de résistance aussi. Malheureusement, il y a eu des massacres, il y a eu des génocides.
Tu pourrais nous faire un petit état des lieux de la résistance dans les dernières années? Comment elle s'organise? Quelles sont les différentes forces en présence dans la communauté kurde?
La résistance, en réalité, a commencé vraiment avec Abdullah Öcalan. Donc, en 1978, auparavant, il y avait beaucoup d'oppression, mais les Kurdes n'avaient pas de résistance. Donc, suite à cette oppression, au début, ils ont voulu plutôt résister de façon pacifique, donc en informant les gens, les étudiants, en faisant des manifestations. Mais en Turquie, il y a eu des coups d'État, il y a eu des emprisonnements vraiment massifs. Par la suite, ils ont dû lutter pour une lutte en fait armée, sans avoir aucune autre option en fait. Et puis depuis, bon ben, il y a eu beaucoup de villages qui ont été complètement vidé dans les régions kurdes. On parle de plus de 3000 villages, en fait. C'est des gens qui ont dû aller vers des plus grandes villes, comme Istanbul, puis qui se sont complètement perdus en réalité. Ils ont perdu leur identité, ils ont perdu leur culture en conséquence. Ils n'ont pas pu non plus s'adapter à la ville, à la grande ville, en fait, Istanbul, à la vie là-bas. Et c'est des gens qui ont vraiment souffert à cause de la pauvreté, à cause de d'autres problèmes de criminalité, tous les problèmes reliés souvent en fait à la pauvreté. Et les gens qui ont voulu ne pas partir, rester là-bas, mais plutôt déménager dans les plus grandes villes aussi, ils ont dû faire face à une souffrance là par l'armement, l'armée qui débarquait un jour comme ça, qui vidait complètement la maison, qui prenait les armes, qui les emprisonnait pour une semaine, un mois, torturés, battus, puis il y a eu beaucoup de femmes violées. Puis après ça, les gens, ben, s'ils les libéraient aussi, ils ne sont pas disparus, en fait. Et puis, là, aujourd'hui, là où on est, c'est que la lutte armée, ça continue avec PKK. Et puis, on a eu une partie politique, HDP, qui a eu 6 millions de votes, mais dont les députés sont emprisonnés aujourd'hui à cause... Ils sont accusés d'avoir justement des relations avec PKK qu'ils classifient en tant qu'une organisation terroriste. Et puis, nous, ce qu'on dit, les Kurdes, c'est que si on regarde à la définition du mot terrorisme, en fait, tout ce que nous, on a subi par l'État du Turc correspond parfaitement au terrorisme. Tandis que nous, on est accusés d'être des terroristes. Ça nous fait extrêmement mal, puis on n'est vraiment pas capable de s'exprimer. On n'est vraiment pas capable, justement, de montrer la vérité, parce que côté médias, on n'en a vraiment pas de pouvoir. Comme après le coup d'État qu'il y a eu, justement, durant l'été, l'État a fermé tous les médias kurdes qui étaient pro-kurdes, qui dénonçaient justement les injustices. Plus de 70 médias, en fait, ont été fermés. On parle des radios, des chaînes de télé. Et même à l'échelle internationale, on n'a pas une voix. On est vraiment mal connu. C'est vraiment difficile pour nous, justement, de faire connaître notre cause pour que les gens comprennent. Et malheureusement, on reste avec l'image que les médias nous donnent, qui est souvent très fausse.
Alors là, tu nous as beaucoup parlé, tu as un peu dressé le portrait de la situation de la partie du Kurdistan qui est située en Turquie. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qui se passe en Syrie?
Avec la guerre qui a éclaté en Syrie, initialement, les Kurdes n'étaient pas trop impliqués. On s'attend qu'initialement, la guerre ne concerne pas toutes les régions de la Syrie non plus. Et puis, ça a empiré de jour en jour, qu'on a pu suivre un peu aussi dans les médias. Aujourd'hui, en fait, les Kurdes s'organisent, ils se défendent par leurs propres moyens de défense avec YPG, en fait, YPG, oui. En fait, je m'excuse.
Et non, c'est puis,
ouais, c'est ça. Donc, pour la défense, ils sont organisés de deux façons. C'est pas juste une force. Il y a la force des hommes, il y a la force des femmes. Donc, les femmes aussi se battent là-bas. Il y a au sein de Rojava, donc à l'intérieur des villes, il y a des femmes qui protègent des femmes, des unités de protection de la femme, mais aussi des unités de femmes qui se battent à l'extérieur des villes pour protéger la ville. Et donc là-bas, la lutte qu'ils mènent, ce n'est pas juste pour les Kurdes, mais pour toutes les autres minorités aussi qui vivent là-bas. Donc on parle des Arméniens, des Assyriens, des Arabes aussi, des chrétiens, des gens de d'autres religions, des juifs, etc. Plutôt que de se séparer entre eux, ils ont décidé de s'unifier et de combattre de cette façon l'État islamique. Ils ont pu libérer la majorité des régions kurdes en Syrie. Et même maintenant, plutôt que de se dire, bon, ben nous, les Kurdes, maintenant, on est sains et saufs, ils continuent à combattre, en fait, l'État islamique. Ils vont dans les régions arabes, justement, pour aider les autres personnes aussi. Parce qu'eux, ils se disent, c'est pas parce que moi, je suis bien aujourd'hui que je vais les laisser souffrir juste à côté de moi, en fait, juste à la région, juste à côté. Et puis, ils essaient vraiment de... en fait, ils vont avec la mentalité que si je les laisse souffrir, l'État islamique va s'agrandir encore plus. Et ils vont revenir contre moi. Il y a ça aussi qu'il faut mentionner.
Comme on le sait, l'État islamique a profité aussi d'une situation pas stable dans une région pour installer sa puissance et son hégémonie. Donc, l'objectif, c'est vraiment de les combattre jusqu'au bout.
En effet.
Est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu nous dis qu'une bonne partie ou une grosse partie du Rojava est libérée et contrôlée par les forces kurdes. Comment est-ce que ça s'organise à l'intérieur? C'est une grosse zone, on parle de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Comment est-ce que ça s'organise à l'intérieur?
Ça s'organise avec la politique que notre chef Abdullah Öcalan a élaborée. C'est qu'après son emprisonnement en 1999, justement, il a changé la vision du mouvement PKK. Il a développé avec Murray Bookchin, en fait, la politique de confidentialisme démocratique. C'est ça qui est mis en pratique là-bas. Ce qui est vraiment différent là-dedans, c'est que on veut vraiment défaire la centralisation. Donc, on veut aussi la hiérarchie qui est existante dans notre société, dans la façon qu'on développe notre démocratie, la politique. C'est qu'on part du haut, c'est les fonctionnaires en haut qui vont prendre les décisions, puis ça va être appliqué par la suite par les gens qui sont justement plus dans les localités. Là, on fait vraiment le contraire. On s'organise localement en premier lieu, et ensuite, à partir des organisations locales, on va organiser des organisations régionales. Et là, c'est comme ça qu'on monte. Donc, plutôt que partir du bas vers le haut, on fait le contraire. On part du bas, on va vers le haut. En conséquence, les minorités, les besoins locaux qui sont spécifiques justement à chaque place sont vraiment pris en considération. Ça ne peut pas être manqué ou bien ignoré parce que les gens eux-mêmes, ils connaissent leurs propres besoins. En conséquence, ils sont capables de s'organiser par rapport à leurs propres besoins. Abdullah Öcalan a beaucoup critiqué les mouvements qui ont existé auparavant, comme le communisme. Et puis, sa critique principalement était qu'on voulait beaucoup éliminer la dominance, l'oppression, et puis ensuite, justement, prendre en charge les autres problèmes, comme l'écologie, la dominance envers les femmes, etc. Lui, il a dit qu'il faut vraiment prioriser la libération de la femme. Ils mettent beaucoup d'emphase pour l'écologie, justement, donc le respect de la vie. La façon qui est arrivée, justement, à cette conclusion, c'est qu'il faut vraiment observer l'histoire des Kurdes et puis les problèmes qui existent dans le Moyen-Orient. Les Kurdes ont toujours été un peuple oppressé, comme on a déjà expliqué. Les Kurdes, entre nous, on est divisés aussi un peu à cause des différences de religion. Maintenant, à cause qu'on est divisé en quatre parties, ça a quand même causé des changements culturels un peu.
Donc, quatre parties, c'est-à-dire Iran, Irak, Turquie et Syrie.
Exactement. Okay. En conséquence, lui, ce qu'il s'est dit, puisque nous, les Kurdes, on a toujours été dominés, ce qu'il faudrait, c'est d'éliminer la dominance, bien évidemment. Mais comment l'éliminer? Parce que cette dominance, ça existe au sein du gouvernement, dans la société et même au sein de la famille. Donc, c'est pourquoi, en changeant les habitudes, si vous voulez, la façon de vivre au sein de la famille, en libérant complètement la femme, on va pouvoir changer la base de la société qui est la famille et ensuite changer la société. Donc, créer une révolution d'une autre façon, en fait. Donc, on part de la base pour justement créer une révolution, pour réaliser une révolution au sein de la société. Et puis là, de cette façon, on vise à changer la dominance. On ne vise pas, en fait, à changer la dominance comme on a fait auparavant avec le communisme. On cherche à l'éliminer, en fait. Et puis, c'est en fait le lien à faire là-dedans, c'est avec le confédéralisme démocratique, qui part aussi, justement, du bas, qui s'organise plutôt dans l'autre sens, mais aussi qui cherche à décentraliser, justement, le système, donc à diviser le plus possible le pouvoir. Donc, c'est pourquoi tout le système qui a créé, la politique qui a développé, c'est très réaliste. C'est pourquoi...
Donc, c'était une entrevue de notre camarade Tristan avec Asliane. Et maintenant, on va se laisser pour une courte chanson. Et ensuite, on va revenir en entrevue avec deux camarades, Chia et Hussein, qui vont venir nous parler de ce qui se passe en ce moment au Rojava.
خدیه شرف و ناموسی ایرو روژا ناموسی چکی خوهلدن چکی خوهلدن جبو نرخی کردستان لکوبانی ام بگن شر مروباهی
Vous écoutez toujours Action en direct sur choc.ca, votre émission d'actualité syndicale et de culture militante. On reçoit maintenant deux camarades, Chia qui est membre de l'IWW puis jusqu'à récemment qui était sur le front avec les combattants et combattantes kurdes du Rojava, et également Hüseyin qui est avocat et militant, qui est également membre de la communauté kurde. Donc pour commencer, Chia, est-ce que tu pourrais nous situer un petit peu sur le rapport des combattants et combattantes kurdes face aux différentes forces armées qui s'affrontent présentement au Moyen-Orient?
L'entrevue avec Asliane a fait pas mal le tour, mais nous autres, au moment où j'y étais, c'est surtout des combats contre Daesh ou la Turquie. Ben, les forces turques ont envahi le Rojava et non, c'est pas nous autres qui vont combattre en Turquie, là. Fait que c'est surtout ça, en fait, actuellement. Malgré qu'on a des escarmouches des fois avec soit le régime ou les rebelles, en général, on se touche pas trop, là.
Mais si je me trompe pas, les rebelles, il y en a quand même une bonne partie qui sont alliés avec la Turquie aussi. Est-ce que vous avez aussi des clashs avec ce genre de rebelles-là? Ou...
Ouais, ben en fait, les rebelles, c'est divisé en plusieurs camps. Il n'y a pas un camp rebelle qui est uni. Il y a les rebelles les plus modérés, qui sont les plus à gauche en général, qui certains d'entre eux commencent à nous rejoindre. Puis il y a les islamistes, donc surtout affiliés avec Al-Qaïda, si on parle de anciennement connus sous le nom d'Al-Nostra. Eux autres, oui, on a des escarmouches avec eux, parce que la Turquie, qui était comme pseudo-alliée avec Daesh, maintenant est plus alliée avec les rebelles islamistes. Donc ils servent d'eux autres pour nous taper dedans. Fait que c'est une guerre de proxy, en fait, là.
Puis à un moment, tu as décidé de partir pour rejoindre ce combat-là, en fait, les unités de protection du peuple. Comment est-ce que tu en es venu à cette décision-là?
Ben, j'avais tombé sur des documentaires qui en parlaient vite fait, donc je me suis comme plus informé. Au bout de, je dirais, deux semaines, je lisais énormément là-dessus. Puis ça me faisait beaucoup penser un peu à la Révolution espagnole de 1936, où il y avait beaucoup d'internationaux qui sont allés rejoindre. Juste des Québécois, il y en avait entre 3 et 4 000 qui sont allés rejoindre. Donc, je me suis dit, ben, il faut que j'y aille, aller aider aussi là-bas. J'ai pris le temps d'y penser un bon 2 mois, puis finalement, par la suite, un coup que j'étais décidé, ça a pris plusieurs mois, le temps de m'organiser, puis d'avoir les bons contacts, puis j'ai contacté YPG International, puis je suis parti. Ouais.
Puis justement, comment ça s'est fait, tous les préparatifs de ton départ du Canada jusqu'à ton arrivée là-bas? Est-ce que ça s'est fait facilement?
Ouais, j'ai été surpris, j'ai pas eu de problème, aucune douane ou quoi que ce soit. Ben, j'avais averti aussi la GRC ici pour éviter d'avoir des ennuis, pour pas qu'ils pensent que je vais rejoindre Daesh, là, parce qu'aller combattre dans les YPG, c'est entièrement légal pour les Canadiens puis les Américains. Donc, j'ai pas eu de problème aucunement aux douanes. T'arrives là-bas à Sulaymaniyah en Irak, qui est contrôlé par les Peshmerga, mais les Peshmerga sont divisés en 2 camps. C'est les Peshmerga de Talabani, là, puis ça, c'est nos alliés. Puis ensuite, on reste là une couple de jours. On traverse le territoire Peshmerga de Barzani, qui est pas notre allié, qui est du bord de la Turquie, plus. On traverse ce territoire-là de montagnes. Puis ensuite, on traverse la frontière, puis le Tigre, à pied.
Puis une fois que tu as rejoint les YPG, ça a été quoi les différentes étapes? Par exemple, l'entraînement, est-ce que ça s'est fait facilement? Est-ce que ça a été long?
L'entraînement, c'est particulier. C'est pas du tout ce que tu vas vivre par après, je dirais. Mais tu t'habitues au manque de sommeil. C'était le rush-bash qu'on appelle le réveil le matin, c'était à 4h30. Puis tout de suite après, c'est l'entraînement physique. Il fait encore nuit. L'entraînement dure 1 mois, l'académie, mais c'est pas juste entraînement physique ou militaire. Là, on a l'entraînement, la langue, on apprend beaucoup, beaucoup la langue kurde, le Kurmanji. Je dirais quasiment la moitié du temps, c'est ça. On a beaucoup sur l'idéologie de la révolution, sur le mouvement féministe, sur l'histoire des Kurdes, sur l'histoire de la révolution. Ça fait que c'est très large, là. On remonte jusqu'à 12 000 ans d'histoire, là. Ça fait que ça, c'est quand même génial, mais c'est très épuisant, là. Nos journées sont extrêmement condensées et tout. Mais tu t'habitues tout de suite au manque de sommeil. Puis après ça, on est déployé dans nos unités. Moi, j'avais été déployé dans une unité qui allait faire les combats urbains de Raqqa. Puisqu'ils ont toujours pas commencé, mon unité est toujours pas au front, est toujours en arrière-ligne, en attente.
Fait que finalement, t'étais plus dans une espèce de position défensive là-bas?
Ouais, même en arrière-ligne, là, de la défense. Donc, okay. On n'était même pas sur une ligne de front, nous autres, là. On était pas mal plus loin en arrière, pour être exact, on était à Tel-Tamir. Tel-Nastra, un petit village à côté de Tel-Tamir. Donc, il y a eu très peu d'action là-bas, si on pourrait dire ça de même, là. C'est mieux pour les civils.
Oui, puis de ce que tu as vu, est-ce qu'il y avait beaucoup de volontaires internationaux? Est-ce que tu étais un d'eux seuls ou il y en avait plusieurs?
Ben, à l'académie, on était dans ma cohorte, on était 14, mais on pouvait monter jusqu'à 30 à l'académie en même temps. Moi, j'ai été tout le long avec deux autres internationaux qui quittent le Rojava sous peu. Mais sinon, j'estime... Les chiffres que j'entends, c'est une centaine de combattants en ce moment. Puis que ça a varié... depuis le début, il y en aurait eu 300 ou 400, mais il n'y a pas de chiffre exact là-dessus. Fait que...
OK. Puis je pense que... Dans certains pays, c'est plus difficile. Je sais qu'il y en a certains et certaines qui se sont fait arrêter éventuellement après avoir combattu. Là.
Ouais, par exemple, l'Australie, c'est complètement illégal d'aller rejoindre une autre force. Canada, États-Unis, c'est super simple pour nous autres, c'est entièrement légal, mais on est pas mal les deux seuls pays au monde que c'est de même. Il y en a en Angleterre qui sont fait arrêter. En Allemagne, des gens qui transigeaient par l'Allemagne pour aller rejoindre les YPG sont fait arrêter. Évidemment, mais du monde qui passait par la Turquie. La Turquie a arrêté beaucoup, plusieurs internationaux qui allaient rejoindre ou qui quittaient pour retourner dans leur pays, qui sont toujours en prison d'ailleurs.
Parfait. Ben, on va se quitter brièvement pour une pause musicale. Ensuite, on va poursuivre l'entrevue tout de suite après.
Hele, 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 hele
écoutez toujours Action en direct, votre émission d'actualité syndicale et de culture militante. On est toujours avec Ousseyine et Chia pour parler du Kurdistan. Maintenant, de ce que vous avez pu observer, ça a été quoi? La manif arrive. De ce que vous avez pu observer, c'est quoi les relations entre les combattants et combattantes kurdes et les autres pays belligérants, par exemple la Turquie?
En fait, je peux peut-être me permettre de répondre à cette question-là. C'est sûr que la situation sur le terrain est très complexe. Comme on dit souvent, les Kurdes n'ont que d'amis, ils n'ont pas d'amis sauf les montagnes. Donc, les Kurdes, à part eux, ils n'ont pas grand ami sur le terrain. En raison du fait qu'ils ont été quand même très efficaces contre l'État islamique, les Américains les ont supportés. Ils les supportent toujours d'ailleurs, et ça c'est une bonne nouvelle en fait pour les Kurdes. Sur le terrain, en fait, c'est sûr qu'actuellement ce qui se passe, c'est que c'est la Turquie est rentrée dans le nord de la Syrie pour empêcher les Kurdes de réunir les trois cantons qu'ils ont en Syrie, et les Turcs veulent que les Américains leur permettent d'attaquer Raqqa et de reprendre Raqqa au lieu que les Kurdes la reprennent. Les Turcs sont avec l'armée syrienne libre, donc ils supportent un des groupes rebelles, si on veut, là. La relation plus particulière des Kurdes avec la Turquie, ben c'est sûr qu'ils sont en état de guerre. Les Kurdes, depuis 1984, avec le PKK, ils ont pris les armes contre la Turquie, avec une armée de guérilla. Depuis ce temps-là, ils sont en guerre avec la Turquie. Il y a eu quelques cessez-le-feu dans des périodes assez spécifiques, mais la guerre actuellement en Turquie, elle continue. Donc, c'est sûr que les Kurdes de Syrie ne sont pas les amis de la Turquie. Les Turcs, leur seul intérêt, en fait, que je peux dire, en Syrie, c'est que les Kurdes n'aient aucun gain, en fait. Les Turcs font tout pour pas que les Kurdes aient des gains. Et ça, au début de la guerre, les Turcs supportaient même l'État islamique. Ils supportaient Al-Nusra. Actuellement, ils supportent l'armée syrienne libre. Mais c'est toujours dans le but d'empêcher les Kurdes d'avoir un territoire, d'empêcher les Kurdes d'avoir une certaine autonomie. Ils ont, comme je disais tantôt, ils ont pris une certaine partie au nord de la Syrie, entre Manbij et la ville d'Azaz, pour empêcher les Kurdes de réunir leur canton. C'est ça. Donc, la situation sur le terrain actuellement, c'est un peu ça.
Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait un état de siège dans un village qui s'appelle Kurukoy. Est-ce qu'un de vous pourrait nous en dire plus?
Ouais. En fait, depuis le 11 février, il y a une dizaine de villages en Turquie qui sont en état de siège par la Turquie, principalement Kurukoy. Ça, c'est le nom turc en kurde, c'est Rehabe Bava. Actuellement, ça fait plus de 20 jours qu'ils sont en état de siège. Ils n'ont pas le droit de sortir parce que le couvre-feu, ils manquent d'eau et de nourriture. On parle de beaucoup de cas de torture, d'exécution sommaire, d'incendie. Ces villages-là font partie de ceux des plus de 3000 villages qui ont été détruits dans les années 90. C'est important qu'on en parle parce qu'on n'en voit aucunement dans l'actualité. Le PKK est considéré comme terroriste, mais pas la Turquie, par les autres pays. Pourtant, on parle de crimes de guerre ouvertement. La Turquie n'en est pas à leur premier crime de guerre. Donc, je pense que c'est important qu'on en parle puis qu'on remette la Turquie, qu'on voit la Turquie comme elle est réellement, un État terroriste. Peut-être qu'historiquement, j'espère bien qu'on va le reconnaître comme étant pire que les nazis de la Deuxième Guerre mondiale.
Malheureusement, si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que en raison de considérations d'ordre politique, le Canada, les États-Unis ont mis le PKK sur une liste terroriste, également l'Union européenne, mais c'est totalement pour des questions d'ordre politique, des relations économiques. C'est malheureux, mais bon, c'est la situation actuelle.
Mmh. Éric, je pense que tu avais une question aussi.
Ouais, ben ma question était un peu plus pour le camarade Chia, en fait. T'étais membre des IWW avant de partir, t'es encore membre des IWW. On sait que les IWW ont envoyé des gens combattre pour d'autres révolutions, notamment en 1936 en Espagne, notamment la révolution mexicaine aussi. Quel lien tu fais entre le militantisme, le syndicalisme révolutionnaire, puis le fait que t'aies adhéré, puis t'as été sur le terrain à cette révolution-là, en fait, à les supporter?
Ben, vite fait, c'est pas mal la même lutte au final. Là. On se bat pour l'émancipation du peuple, des travailleurs travailleuses ici, pour les IWW, mais là-bas, c'est un peu le même principe aussi. C'est des peuples opprimés. On parle les Kurdes principalement, effectivement, mais c'est pas juste les Kurdes qui sont opprimés là-bas, c'est toutes les puissances s'amusent dans ce terrain de jeu-là qui est le Moyen-Orient. Pour le Rojava, c'était principalement des Kurdes, mais il y a aussi des Assyriens qui sont présents là. Il y a beaucoup de peuples qui sont présents, puis ils se font tout taper par principalement la Turquie, mais aussi le régime syrien qui leur a tapé dessus. Donc, c'est aussi une lutte pour la classe ouvrière. Donc, le lien est effectivement là, beaucoup plus qu'on pourrait le penser au premier à première vue.
J'aurais envie de vous demander aussi, ça sera quoi qui va être à surveiller pour les prochains mois?
En fait, sur le terrain, c'est sûr qu'il va falloir surveiller la reprise de Raqqa, les Kurdes et leurs alliés, parce qu'il y a certains groupes rebelles qui sont également alliés des Kurdes sur le terrain. Les Américains aident les Kurdes, sont en direction de Raqqa. Ils sont au nord actuellement de Raqqa, environ les dernières nouvelles que j'ai vues. Je pense que c'était une dizaine de kilomètres, donc ils sont pas très très loin de Raqqa. Ils sont rentrés dans l'autre phase de l'opération. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les Kurdes en Syrie devraient reprendre Raqqa. La Turquie est actuellement en train de faire de la pression sur les Américains pour pouvoir attaquer Manbij. Ça, c'est une ville qui est au nord de Raqqa et qui est contrôlée par les Kurdes. Les Turcs veulent, comme j'ai dit tantôt un peu, ils veulent aussi rentrer dans Raqqa. Ils veulent reprendre Manbij. Donc, ça c'est à surveiller, le jeu politique que la Turquie va faire. Et la Turquie, à chaque fois qu'elle n'a pas ce qu'elle désire, sort son entente qu'elle a faite avec l'Union européenne pour les réfugiés, pour dire, écoutez, si jamais vous ne donnez pas ce qu'on veut, on va ouvrir les valves, puis vous allez voir le flux des réfugiés qui va venir sur votre territoire. Donc, ça, c'est du côté de la Syrie à surveiller. Côté d'Irak, ben il y a Mossoul, il y a la bataille de Mossoul qui s'en vient. Ça va être vraiment ça à surveiller pour les prochains mois.
Ouais, pour Raqqa, en fait, c'est l'avant-dernière phase qui a commencé peu de temps avant après que je sois parti. C'est de l'encerclement de Raqqa qui est en train de qui avance très vite, même si on est rendu au sud, en train d'encercler. La dernière phase va être l'assaut pour les combats urbains. Ça va être les plus meurtriers. Puis on risque de perdre beaucoup de camarades là-bas lors de cette phase-là. Puis sinon, la Turquie aussi, c'est voir la réaction de la Turquie face, par exemple, à Manbij. Ça va être un gros dossier aussi à suivre. Ça peut jouer beaucoup sur l'histoire du Rojava et tout.
Puis pour terminer, comment on pourrait soutenir les combattants et combattantes kurdes?
En fait, il y a plusieurs façons. Les Kurdes ici au Canada, ils ont une fondation qui s'appelle l'Anatolia Cultural Foundation. Ils ont un site internet. Son site, c'est facilement retrouvable également sur Facebook, acfcharity.com. Ça, c'est une fondation qui aide les Kurdes en Turquie, au Rojava. Il y a également le croissant kurde qui s'appelle le Hayvasor. Ça s'écrit HEYVASOR.com. Il y a également un groupe Facebook qui s'appelle Rojava Solidarité Montréal. On pourrait, pour les gens là, qui sont intéressés, peuvent aller sur cette page-là, Facebook, puis on pourrait rentrer en contact avec des gens qui pourraient plus facilement nous indiquer comment on peut venir en aide. Et il y a également, en dernier lieu, au Rojava, il y a un site internet qui vient en aide aux combattants sur le terrain, qui dans le but d'acheter des équipements médicaux pour les combattants là-bas. Ça s'appelle rojavacombatmedics.com. Donc ça, c'est un autre site sur lequel on peut... Il y a une page Facebook et il y a également un site internet où on peut aller avoir plus d'informations, en fait.
Ouais, d'un autre angle, je dirais aussi, c'est de parler beaucoup du rôle de la Turquie, parce que ça va être ça qui va suivre par la suite. Daesh est dans ces derniers moments, dans cette région-là du monde, en tout cas, c'est le plus gros danger pour la révolution là-bas, c'est la Turquie. Faut en parler beaucoup, faut que les gens soient au courant de ce qui se passe là-bas, puis faire pression auprès de nos gouvernements, sur nos gouvernements, pour qu'ils interviennent si la Turquie décide de... Ben, en fait, elle intervient déjà, si la Turquie décide d'avancer encore plus loin, ou de refuser de reculer.
Bien, merci beaucoup, Hussein et Chia. On va se laisser pour une pause musicale. On va être de retour ensuite avec le pétage de coche d'Eric.
لشکر روز خودی جینه، لشکر روز خودی جینه.
Toujours Action Directe, votre émission d'actualité syndicale et de culture militante. Alors, Éric, sur quoi tu vas péter une coche cette semaine?
Yes, j'avais envie de rester dans la thématique sur la révolution Rojava, fait que j'ai décidé de parler des ennemis jurés de cette révolution-là, hein? L'ISIS, l'État islamique, Daesh, hein? Ils portent toutes sortes de noms, c'est drôle quand même. Puis dans le fond, un peu l'ensemble de la mouvance djihadiste qu'on voit un peu partout dans le monde là, qui émerge. Je voulais te parler de comment on traite ces groupes-là, qui sont en fait des groupes intégristes religieux, dans nos bons vieux médias de masse occidentaux. Fait que pour commencer, j'aimerais ça présenter peut-être des définitions pour savoir un peu de quoi on parle, là, puis que ça va nous aider à mieux comprendre le tout. Premièrement, ça mange quoi ça en hiver, le djihad? Hein, on pourrait traduire ce terme-là par « guerre sainte » en fait. Là. Le concept de djihad, ça, il est assez présent dans le Coran, mais il est pas nécessairement sous une forme violente. C'est plutôt comme un symbole. En fait, ce qu'on va se tromper avec, ça va être souvent le terme djihadisme. Hein, c'est un terme auquel il est beaucoup plus associé maintenant. La mouvance djihadiste, en fait, ça a juste commencé dans les années 80 avec quand l'Afghanistan a été envahi par l'URSS, il y a eu une montée du djihadisme là-bas, qui a évidemment, après ça, donné les talibans et Al-Qaïda. Mais avant ça, on parlait pas de mouvance djihadiste nécessairement. Donc, qu'est-ce que c'est le djihadisme? C'est un terme maladroit, selon Wikipédia, hein, attention. C'est un terme maladroit. C'est un terme maladroit et controversé qui réfère au courant de la pensée extrémiste islamique qui demande l'utilisation de la violence de façon à chasser toute influence non-islamique des territoires traditionnellement musulmans. Et ceci pour établir une gouvernance véritablement islamique fondée sur la charia. Hein, la fameuse charia qu'on entend toujours parler. Là, on a l'impression que demain matin, Montréal va être envahi par la loi de la charia. Là, bon, en tout cas. Fait que c'est une vision rigoriste et fondamentaliste de l'islam. Les djihadistes, au final, c'est quoi? C'est des intégristes religieux. Au même titre qu'on va en trouver dans toutes les religions. Hein. On pourrait parler, par exemple, du cas de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, un regroupement intégriste catholique dont les liens avec l'extrême droite sont connus, et ça, un peu partout où on la retrouve. cette fameuse fraternité-là a été vue même ici au Québec en lien avec des événements du groupe Atalante Québec, qui est en fait un groupe ouvertement d'extrême droite. On ne peut plus raciste.
À Québec.
Ouais. En faisant des messes pour bénir un peu la manifestation néo-nazie qu'il y avait, mais. C'est ça, la fraternité, ça sert de salle Saint-Pidis.
Il y a un beau petit vidéo sur leur page Facebook, d'ailleurs.
Oui, on peut le trouver. Ouais. Ben, je vous conseille pas nécessairement d'y aller, là, mais on peut retrouver ça, là. En fait, on n'a aucun problème à parler de la société sacerdotale Saint-Pidis comme un groupe d'extrême droite, mais on n'entend jamais dans nos médias occidentaux dire « Hey, des djihadistes, au final, c'est des gens d'extrême droite. » Non, non, ça, jamais. Là, ça, en tout cas. Allons voir c'est quoi la définition d'extrême droite, toujours, selon Wikipédia. Si les mouvements ou partis d'extrême droite sont divers, leur socle idéologique comporte des points communs. Un patriotisme, un nationalisme et un traditionnalisme encore plus poussé qu'à droite. Un fort attachement à des valeurs nationales, identitaires, culturelles et ou religieuses. Et parfois un discours économique et social plus contestataire et se trouvant plus proche des milieux populaires que celui de la droite traditionnelle. La xénophobie fait aussi partie de ce socle commun. Donc, si on se fait à ces définitions-là, est-ce que Daesh est un groupe d'extrême droite? La réponse est assez évidente, oui. La même question se pose pour l'ensemble de la mouvance djihadiste. Hein, on parle d'Al-Qaïda, Boko Haram, les talibans, c'est toute la même chose. Mais on a-tu déjà entendu un journaliste du Journal de Montréal ou de Radio-Canada les qualifier ainsi?
Non.
Jamais. Pourquoi on le fait avec les chrétiens? Ça, ça ne dérange pas. Fait que, qu'est-ce que ça fait, ça, quand on le place pas sur ce schéma politique-là? Ça contribue à une vision raciste de la chose. En fait, c'est que les musulmans extrémistes, eux, sont vraiment plus dangereux que les chrétiens islamistes, que c'est nos chrétiens à nous, tu sais. On entretient une confusion qui fait en sorte que les gens pensent que la seule façon de combattre ce type de fascisme-là, c'est par un autre type de fascisme. Ce qui fait en sorte qu'on se tourne vers des Donald Trump, Marine Le Pen, Rambo Gauthier pour essayer de régler des problèmes qui sont en fait les deux faces d'une même médaille. On combat le terrorisme d'extrême droite islamique en mettant des terroristes d'extrême droite bien blancs de souche au pouvoir. Donc, on assiste à une montée des populistes, de la xénophobie qui se place en défenseur de notre supposée nation, notre supposée civilisation face à une autre. Si Donald Trump, là, il bombe the shit out of him, comme il dit, est-ce que c'est pas ça du terrorisme aussi? Allons voir la définition de terrorisme selon Wikipédia. Le terrorisme, c'est l'usage de la violence envers des innocents à des fins politiques, religieuses ou idéologiques. Donc, quand Donald Trump veut bomb the shit out of him, n'est-ce pas là de la violence envers des innocents à des fins politiques ou idéologiques? On sait que s'attaquer à des innocents, c'est une attitude de droite. Il y a une différence entre les mouvements de guérilla urbaine et les mouvements terroristes, dont on pourrait élaborer beaucoup plus. Mais tous les cas de terroristes qu'on voit actuellement, ce sont actuellement tous des cas d'extrême droite. Notamment, on pourrait parler du cas de Marc Lépine, qui est un masculiniste d'extrême droite, qui a fait une tuerie. On parle jamais de ça comme étant du terrorisme. Et finalement, là, j'accélère vraiment, là. Comment sont traités les terroristes islamiques versus les terroristes blancs de souche? Hein? Les blancs, ils ont des maladies mentales, c'est des loups solitaires dérangés, on l'a vu à Québec et tout ça, avec la tuerie. Tandis que les terroristes islamiques, eux, c'est des sanguinaires terroristes organisés qui ne veulent que le chaos. Donc, un autre double standard basé sur le racisme. Face à tout ça, la seule solution qu'on a, c'est de soutenir la révolution au Rojava, parce que face à l'ISIS, face à l'État islamique, la seule force qui vraiment veut amener une mouvance progressiste, une mouvance égalitaire, féministe et tout ça, c'est la révolution au Rojava. Mais jamais on va en parler ainsi dans nos médias de masse. Voilà.
Oui, ben merci. C'est tout à fait pertinent de resituer ça dans l'axe gauche-droite. On passe tout de suite à l'agenda avec Pierre-Luc.
Oui, bonjour. Pour l'agenda des prochaines semaines, plusieurs événements sont au rendez-vous. Par contre, j'ai juste en nommé les trois plus importantes à venir, et les autres seront disponibles sur la page. Tout d'abord, il y a une contre-manif le 4 mars pour un événement organisé par l'extrême droite islamophobe. C'est à partir de 11h30 à l'Hôtel de Ville de Montréal. Le syndicat organise aussi une formation d'organisation les 4 et 5 mars. Ça va commencer à 9h le 4 mars. Il y a le lien également quand il faut s'inscrire. C'est ouvert aux non-membres également. Puis, le 7 mars, un souper-conférence et une discussion sur le salaire minimum à 15$ de l'heure organisé par différents groupes. Je vous laisse aller... voir tous les détails sur notre page.
Oui, tout à fait. Donc, tout sera sur notre page Facebook. C'était une émission qui était vraiment pertinente, qui a apporté un autre point de vue qu'on entend rarement dans les médias sur ce qui se passe en ce moment au Kurdistan. Notre prochaine émission va être le 11 mars, je le rappelle, toujours disponible à l'écoute en direct sur choc.ca. Nos podcasts sont également disponibles en téléchargement et en écoute directe sur le site de choc.ca. Et finalement, les entrevues seront mises sur YouTube. Merci beaucoup à nos invités ainsi qu'à nos chroniqueurs et chroniqueuses.
We declare.
Nous déclarons.
Our right.
Notre droit.
To be given the rights.
À jouir des droits.
Of a human being.
D'un être humain.
To be respected.
À être respecté.
As a human being.
En tant qu'être humain.
In this society,
dans cette société,
on this earth,
sur cette terre,
in this day,
aujourd'hui même,
which we intend
toute
to
chose que nous avons l'intention de faire exister
by any
tous les moyens nécessaires.
Один казак из гору свалил, бою заскучал, один казак по дому, бою на гриву, бою на гриву.
گرم زمستانم پاییزم از بهارم از هاوینم ما آبادم خامشلو هولیرو آمدم از باکورم باشورم روژابا و روژ لاتم از آخازی و زیرم پترولم از دوله مندم شیناهی ما از کلیرکم کس خو سورو زرم خوزای بده و مارا راتو زاگروسم از سرحدم بدینان از درسم و بوتانم کانی اجیلی ما گولا ارمی و وانم از آواشینم منزور دیجلی و فرادم از نمرودم از کیفم از مموزینش بو مروواهی سرچیای جودی لیمانم روژ درتینم نوروزم کاو حسم کارم از زردشتم سلح دینم از پیر سلطانم نویه سمیران که جمدم از دیروکم از گلم از آخم از کردستانم از برفم و بارانم از تیره بازم آزمانم از بای زوزانم از باری گرانم کلو برینه هزار سالانم از کوینه آخسورم زخت و ظلمه را قربانم از ایسیرم بنزستم از گرتی زندانم لشکره روژه ما خود فریزم از برخودانم ایمی دارم سبا سرخبونم سبا رزگارم از ولاتم نتوم دل روژه لاتا نابینم از آروکم و دایکم گازی ما و شهیدم دایکه اگید حیری مظلوم و کمال پیرم قهرمانم بیتانم زیلانم از بریبانم دست خوراتم و سر خود دهشینم دایکه ملا مصطفى شیخ سایی دو بده خانم بیستو نه جارا سری را گرم از سهل دانم تک و شینم شهر گرانم از باورم و آرمانجم از هیویا آزادم از کردستانم